Vous écoutez RTL.
7h47, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Bonjour Thierry Mandon.
Bonjour.
Avant de parler de l'université, est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron ou bien pensez-vous, comme certains députés socialistes, qu'il faut le virer, comme Arnaud Montebourg ?
Non, je virerai non, mais moi, je parle d'université. C'est le problème de l'université, c'est pas l'emploi-vie aujourd'hui. C'est l'excessive précarité des chercheurs. C'est le fait qu'ils ont besoin de perspectives et ils auraient besoin d'emplois à vie et la plupart n'en ont pas. Donc on ne peut pas faire des généralités comme ça. Quand je discute avec Mme Touraine, elle me dit qu'elle manque de fonctionnaires. Quand je discute avec M. Cazeneuve, à l'intérieur, il me dit qu'il manque de policiers. Donc il faut faire attention aux concepts.
Ministre, ce n'est pas un emploi à vie non plus.
Ah non, ça, on est en CDD. Parfois même en intérim. Bon.
Vous avez le sentiment que Manuel Valls et François Hollande sont sur la même ligne ? Parce que Valls soutient Mandon, même s'il était en désaccord avec lui sur
Macron,
le fond.
Macron,
excusez-moi.
Oui, pardon. Tout à fait pareil.
Même s'il n'est pas sur la même ligne sur le fond. Et François Hollande, lui, n'a pas dit un mot de soutien.
Oui, là, je n'ai pas passé mon week-end à regarder ces nuances-là. J'avais mieux à faire.
D'accord. Le référendum Cambadélis sur l'unité de la gauche et panique à bord au PS avant les régionales ?
C'est mettre en débat le coup de la désunion, c'est en gros sonner l'alerte plutôt que d'avoir un jour à sonner le tocsin.
Ouais. Et vous croyez que c'est avec du sparadrap comme ça qu'on sauve
Le but n'est pas de sauver, le but c'est de dire la désunion a un coût, attention à ce que si vous persistez dans vos choix de désunion, ça aura un coût et un coût élevé. Face au Front National, il faut quand même rappeler les fondamentaux, je crois que c'est ce que fait Cambadélis.
C'est la rentrée universitaire, 65 000 étudiants de plus, mais l'État n'a pas d'argent pour mieux doter les universités, pour leur permettre de faire face à cet afflux. Elles doivent aller chercher l'argent ailleurs, avec les entreprises par exemple ?
Oui, le modèle économique des universités est bouleversé, c'est même plus que ça, par cet heureux flux démographique, on y viendra peut-être. Il y a trois ressources pour les universités, la dotation de l'État, les droits d'inscription et ce qu'on appelle les ressources propres. Dotation de l'État, compte tenu des objectifs que se fixe l'État à moyen terme, il devra augmenter son soutien, et d'ailleurs la France est dans la moyenne de l'OCDE, à 1,5% de son produit intérieur brut pour ses universités, certains pays sont à 2,5, 2,6.
Mais augmenter en fonction d'un tel afflux supplémentaire d'étudiants ?
Mais un afflux c'est une chance, la démocratie c'est une chance.
Non mais attendez, ça on va en parler.
Démocratisation. Non mais c'est une chance pour le pays, donc un, augmenter en partie, deux, les droits d'inscription, il y a deux modèles dans le monde, il y a un modèle pour le qualifier simplement d'anglo-saxon, droit d'inscription élevé, endettement des étudiants, c'est pas le modèle européen. Il y a un modèle européen qui est pas que français, d'ailleurs, on le dit pas assez, il est allemand, il est pays nordique, et il est d'une certaine manière Italie et Espagne, qui est des droits d'inscription faibles. Je pense qu'il ne faut pas jouer sur le moyen terme, sur les droits d'inscription, parce que quand on veut démocratiser un système, on commence pas par donner des signaux qui vont à l'inverse aux couches qu'on veut scolariser. Et puis, troisième levier, c'est les ressources propres, notamment la formation professionnelle. Pour être direct, on a peu de temps. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un champ considérable de ressources pour les universités. C'est 2,5% du budget d'université aujourd'hui, la contribution à la formation professionnelle, alors qu'elle a les professeurs, elle a les amphithéâtres. Voilà. Donc là, on a des pistes très importantes sur lesquelles il faut travailler plus fort et plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Alors le taux de réussite à l'université n'est pas excellentissime, hein. C'est quoi, 3 étudiants, 6 ou 7 étudiants sur 10 qui réussissent, c'est ça à peu près ?
Si on prend les chiffres de l'OCDE, les cite, comme ça ceux qui vérifient les chiffres pourront trouver les sources, la France, quelqu'un qui rentre dans l'enseignement supérieur, à 80% des cas, sera diplômé de l'enseignement supérieur. La moyenne de l'OCDE, c'est 70%. Donc, il y a plutôt de la réussite.
Parce qu'il se recycle avec les IUT, etc. Mais à la sortie de l'université, c'est pas si fort que ça.
Il y a plutôt de la réussite quand on rentre dans l'enseignement supérieur, ce qui montre sa qualité qui demeure et qu'il faut rappeler. Mais les parcours sont trop erratiques, d'une part. Parfois, c'est au prix de changements, réorientations. Et deuxièmement, surtout, c'est ça qu'il faut corriger très vite. L'orientation avant l'université, ça va pas. On ne dit pas aux étudiants très précisément ce que, s'ils rentrent dans telle filière, ils auront comme perspective d'emploi dans 2 ans, dans 3 ans, après leur diplôme, leur niveau de salaire. Mais en gros, c'est une orientation qui est trop souvent à l'aveugle.
Mais vous croyez qu'ils ne le savent pas, simplement ils veulent entrer à l'université et ils choisissent des filières qui leur plaisent, mais qui ne sont pas forcément efficaces sur le plan de l'emploi.
Mais moi, il se trouve qu'on a eu quelques problèmes cette année, comme toutes les années dernières. J'ai pris le temps de discuter directement avec les étudiants qui m'écrivaient, qui me téléphonaient, qui avaient des problèmes. Non, ils ne savent pas. J'ai encore vendredi dernier, une étudiante à qui on va trouver une place cette semaine me disait qu'elle ne savait même pas qu'il y avait un service d'orientation dans son université. Elle ignorait l'existence de ce service.
Enfin, c'est un manque de curiosité de leur part quand même. Il y a des tas de papiers partout sur Internet. On voit quelles sont les filières qui conduisent à l'emploi.
Mais c'est le produit de la démocratisation. Quand vous avez des parents intelligents qui ont fait des études, ils se repèrent dans ce dédale sans aucune difficulté. Quand vous êtes de milieux défavorisés qui accédez parce que vous avez bien travaillé à l'université, vous n'avez pas ce patrimoine culturel qui vous permet de vous diriger dans ce système. Donc, c'est à l'État, parce qu'il a des objectifs de scolariser avec de la réussite plus d'étudiants, de donner ces outils aux étudiants.
Oui, alors donc, c'est toujours le problème de la sélection. Vous êtes farouchement opposé, mais est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à accueillir, malgré tout, des garçons et des filles dont on sait au départ qu'ils vont perdre leur temps à l'université, quand ils y vont d'ailleurs, parce qu'en première année, beaucoup n'y vont même pas.
Alors, moi, je ne suis pas favorable à la sélection. Ce n'est pas par doctrine, c'est par lucidité de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tous les pays développés font de l'accès à l'enseignement supérieur et du diplôme de l'enseignement supérieur la première ressource de leur compétitivité. Tous les pays, vous regardez les Allemands, il n'y a pas de sélection en Allemagne, je rappelle.
Oui, mais ils ont d'autres formations alternatives qui font que peut-être il y a moins de candidats à l'université.
Il n'y a pas de sélection, vous rentrez dans beaucoup encore de pays européens une fois que vous avez l'équivalent du baccalauréat. Donc il ne faut pas de sélection parce que l'enjeu c'est vraiment de monter en gamme le niveau de formation de nos jeunes. Et il faut d'ailleurs de la qualité d'enseignement pour que réussir cette montée en gamme. Mais deuxième chose, il ne faut pas de sélection, pourquoi? Parce que si vous faites après le baccalauréat une nouvelle sélection, à quoi il sert votre baccalauréat? Et si vous faites après la licence?
Le baccalauréat, on va vers le 100%. Est-ce que le bac joue encore? Comment? Il y a plein de syndicalistes qui vous disent bientôt on va avoir 100% de réussite.
Le bac doit être de qualité.
Il faut faire un gros effort pour échouer au bac paraît-il.
Paraît-il, il faut regarder de près. D'abord, tout le monde ne l'a pas. Et le bac doit rester. Parce qu'un système d'éducation et d'enseignement supérieur, ça marche avec des boussoles. La boussole bac, la boussole licence qui donne accès à un master.
Vous avez reçu un rapport qui vous recommande de ne plus accueillir systématiquement les garçons et les filles qui sont titulaires d'un bac pro ou technologique. Vous allez suivre cette indication ?
C'est en effet une information qui est juste. Le rapport est remis dans quelques jours. Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs après les bacs pro à l'université. Il n'y a pas question d'interdire l'accès des bacs pro à l'université, mais il faut, là encore, en matière d'orientation, j'y reviens, une orientation active, outillée, montrer aux jeunes qui ont des bacs pro qu'il y a d'autres filières de réussite, et avec beaucoup plus de succès, beaucoup plus de débouchés professionnels que l'accès à l'université.
Dernière question, réponse brève, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes favorable à la fusion de l'université Pierre-Marie Curie et la Sorbonne à Paris pour créer une université de rang mondial, disent leurs présidents?
Oui, moi je suis très favorable à la façon dont ils envisagent de s'y prendre. Maintenant, c'est à eux qui reviennent à décider. Je trouve que c'est intelligent, stratégique, et les étudiants seront les premiers bénéficiaires de ce choix.
Merci Thierry Mandon.
80% des étudiants français seront diplômés, mais l'orientation avant la fac doit être améliorée, vient de nous dire le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci à vous deux. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.